On a parlé beaucoup des fameuses élections de mi-mandat dans les derniers jours aux États-Unis. Ça se tient mardi, en fait, là. Mais je réalisais que c'est un phénomène qu'on connaît pas très bien ici, parce qu'évidemment, ça fait pas partie de notre système parlementaire au Canada, les élections de mi-mandat. Et donc, on va faire un peu la lumière là-dessus ce matin avec Valérie Beaudoin, qui est chercheure associée à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. Bonjour, Valérie.
Bonjour.
D'abord, explique-moi un peu la formule. Ben, aux États-Unis, de ce que j'ai compris finalement, là, au milieu du mandat, après 2 ans, on soumet à des élections toute la Chambre des représentants, un peu comme si au Canada, on réélisait tous les députés, mais qu'on gardait le premier ministre, genre.
Exactement. C'est une très bonne façon de le présenter, parce que le président des États-Unis, lui, ça change pas. Son mandat, c'est aux 4 ans. Donc, c'est en 2020 qu'on va peut-être réélire Donald Trump. Mm-hmm. Mais c'est vrai, là, les 435 sièges sont en élection et il y a le tiers du Sénat. Donc, avec des élections spéciales, ça fait un total de 35 sénateurs qui vont être élus ou réélus pour l'élection. Il y a 36 États qui vont élire un gouverneur, puis il y a des milliers d'autres élections. Parce que vraiment, aux États-Unis, là, vous l'avez sûrement déjà vu, là, les images, là, parfois, les bulletins de vote, il peut avoir 30 thèmes différents. Ouais. On vote pour des amendements, on vote pour le shérif, le juge, le secrétaire général et tout ça. Bon, alors, il y a vraiment plusieurs personnes qui vont être en élection. Et c'est pour ça aussi que les Américains votent moins au mi-mandat, parce qu'eux ont l'impression qu'ils sont toujours en élection. Les élections, il y en a aux 2 ans aux États-Unis. Alors, on termine une campagne et on en commence une autre. Donc, vraiment, c'est assez lourd pour les Américains. Puis c'est difficile pour eux aussi de se retrouver. Nous, on comprend même c'est quoi des mi-mandats. Mais récemment, j'ai parlé à des Américains qui me disaient « Moi, je n'ai pas voté parce que je comprends même pas pour qui je vote. » Alors, c'est pour vous dire à quel point c'est méconnu.
À la dernière élection, celle qui a fait élire Donald Trump, les experts ont tous été confondus. À peu près aucun d'entre eux qui prévoyait l'élection de Donald Trump, pas même les sondages. Dans les médias américains, est-ce que les experts se mouillent à faire des prédictions sur cette élection de mi-mandat? Même, en fait, j'entendais ici au Québec des experts qui disaient au niveau de la Chambre des représentants, ils sont déjà presque convaincus que ça va passer aux mains des démocrates. Là, la Chambre, présentement, est républicaine. Aux États-Unis, est-ce que c'est le même pronostic qu'on fait?
Oui, ben si on se fie au sondage, encore une fois, il y a des firmes de sondage, là, je vous dirais, il y en a énormément aux États-Unis et les chiffres se contredisent, mais ça se ressemble un peu. Alors, le pronostic, toujours en étant prudent avec les sondages, c'est que la Chambre des représentants passerait aux démocrates, mais le Sénat, qui est aussi en réélection en partie, resterait aux républicains. Et c'est le Sénat, on le sait, qui a souvent le plus de pouvoir. C'est eux, par exemple, qui ont permis de nommer Brett Kavanaugh. On se rappelle tout le tollé que ça l'a fait. Alors, pour les nominations importantes, exemple pour nommer un nouveau directeur de la CIA ou des choses comme ça, c'est vraiment le Sénat qui a beaucoup de pouvoir avec les comités sénatoriales. Donc, le Sénat, c'est ce que les démocrates espéraient aussi avoir pour vraiment faire tomber les deux chambres de leur côté. Mais si on se fie toujours au sondage, ça semble être assez difficile pour le Sénat.
Depuis 2 ans, presque la totalité de la couverture médiatique des États-Unis porte sur les coups de gueule de Donald Trump. Mais quelles sont tes observations quant aux enjeux, les vrais enjeux politiques là, qui intéressent les Américains dans cette élection de mi-mandat? Est-ce qu'il y en a? Rapidement, moi, évidemment, on pense, bon, OK, l'immigration, l'économie, l'emploi, on sait que c'est des thèmes qui sont populaires aux États-Unis, mais de l'extérieur, on a juste l'impression qu'on parle tout le temps de Donald Trump, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, puis ce qu'il a tweeté, tu sais.
Puis c'est ça qui est particulier, parce que l'œil qu'on a ici à l'extérieur, c'est vraiment, bon, ben voyons comment ça... Il y en a beaucoup qui vont se dire, ben il dit ça sur l'immigration, ou il a menti, il a pas donné les bons faits, pourquoi les gens sont derrière lui, pourquoi il ferait continuer à faire élire des républicains. Puis il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça ici et qui comprennent pas. Mais il faut se dire que pour beaucoup d'Américains, c'est l'économie qui importe. Et les États-Unis, l'économie, ça va bien actuellement. Bon, est-ce que c'est vrai que c'est la meilleure présidence de toute l'histoire? Peut-être pas si on regarde les chiffres. Mais l'emploi, ça va bien. Lui, il a toujours l'espèce de rhétorique « America first », ça fait plaisir à bien des gens. Alors, il y en a qui vont juste se fier à ça. Donc, tous les discours d'immigration, anti-média ou autres, ils vont mettre ça de côté. Et c'est pour ça aussi que là, il y a un discours aussi ferme sur l'immigration, parce que là, si vous avez regardé les dernières publicités ou ces derniers rallyes, c'est assez intense, là. C'est dit carrément, bon, les démocrates, c'est leur faute que des criminels arrivent ici et qu'ils tuent des policiers. Et si vous les remettez au pouvoir ou s'ils restent au pouvoir à la Chambre des représentants ou au Sénat, ils vont continuer de faire entrer des criminels. C'est faire un raccourci en se disant, ben eux, ils me donnent pas mon mur, ben voilà ce que ça donne. Donc, ça, c'est pour rappeler sa base. Là. Tu sais, les purs et durs Trumpistes, les gens qui pensent comme Trump, ils se disent qu'en les mobilisant avec des questions comme l'immigration, avec le discours qui est anti-média, ben ça va être sa solution peut-être pour les motiver à aller voter, parce que le taux de participation, c'est autour de 36%, le CSA en 2014. Alors, c'est pas beaucoup. Les jeunes, c'était 18% seulement qui sont allés voter. Alors, c'est très, très peu. C'est pour ça qu'Obama, on l'entend partout, mobiliser ben oui. les jeunes. On le sait que les jeunes l'aiment. Il se dit, ben, si les jeunes décident d'aller voter le 6 novembre, ben, peut-être que le vent va tourner. Puis peut-être que, justement, on ne donnera pas raison au sondage et les démocrates vont reprendre le contrôle du Congrès et faire la vie dure à Donald Trump pour 2 ans.
Valérie, tu t'envoles pour Parkland demain matin, Parkland en Floride. 9 mois après la fusillade qui a fait 17 morts dans une école dans cette même ville-là. 2 jours après aussi une fusillade à Tallahassee dans un centre de yoga. Ça a eu lieu comme hier. Tu t'attends à trouver quoi comme... parce que moi, je vais te dire bien honnêtement, là, peut-être que je suis pissou puis que c'est niaiseux de penser comme ça, mais je serais même presque un peu craintif de demander aux États-Unis ces temps-ci, à quelques jours des élections de mi-mandat. Tu t'attends à tomber sur un peuple américain. Est-ce que tu t'attends à tomber sur des gens craintifs?
Ben, écoute, c'est bien que vous m'en parliez parce que j'ai parlé à des gens de Parkland avant de me rendre parce que bon, je voulais aller les voir sur place, voir comment ça se passait. Et il y en a qui m'ont même dit, écoutez, j'habite plus là, le climat était tellement toxique à Parkland que j'ai déménagé. Il y en a qui ont déménagé en se disant, écoute, mes enfants, je peux pas imaginer qu'un jour, là, sont au primaire, ils vont aller dans la même école, je vais devoir leur expliquer. Le fait qu'il y a encore des fleurs à plusieurs endroits, les collants, Parkland Strong, tout ça, c'est comme se rappeler à tous les jours quand on se lève qu'il y a 14 personnes qui sont mortes, qu'il y a des jeunes qui ont été tués, et ces gens-là se sont rapprochés des centres touristiques où il y a moins de danger, qu'il y a des écoles privées, qu'il y a, tu sais, c'est un petit peu différent de la vie de quartier normal, et c'est ça que ces gens-là recherchaient, en se disant, ben on va voir des snowbirds, on va voir autre chose, ben ça va nous changer le mal de place. Peut-être c'est mettre un pansement sur le bobo, bien, ouais. Mais on pense pas que ça va réarriver nécessairement une fusillade dans à Parkland, mais on se dit, on va y penser à tous les jours, par contre, parce qu'il y a on va aller au coin de la rue, peut-être on va croiser une mère qui a perdu son enfant, on va aller à un autre coin de la rue, l'employé de l'épicerie, le jeune qui était là est décédé. Alors, c'est ce climat-là un peu auquel je m'attends pour aller à Parkland. Par la suite, c'est sûr que je vais aller dans d'autres régions, je vais aller à Miami, je vais aller voir les gens, comment ça se passe à 2 jours de l'élection. Là, ça va peut-être être un autre discours, c'est sûr.
Valérie Beaudoin, chercheure associée à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. Merci d'avoir pris du temps pour nous ce matin.
Merci, ça fait plaisir.
OK, au revoir. Bon voyage. Vous pourrez d'ailleurs écouter Valérie, je présume, dans les différentes émissions 93, puisqu'elle se rend donc aux États-Unis pour couvrir ses élections de mi-mandat.